Et par actualité. Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités. Hélène Denis avec vous et en manchette aujourd'hui, Journée internationale des personnes handicapées. On y revient. 20 ans après le traité d'Ottawa, les mines antipersonnelles continuent à tuer et mutiler. Faire emballer ses cadeaux de Noël pour la bonne cause, une coalition demande des trottoirs plus spacieux à Toronto. Et en entrevue, je reçois Sarah Rouleau, responsable communication, marketing et événements spéciaux de l'INCA Québec, pour nous parler d'un concours pan-canadien de création littéraire Braille, et aussi Lisanne Gagné, chef de la programmation d'Amis Télé, pour nous parler de la programmation des fêtes d'Amis Télé. La Journée internationale des personnes handicapées, qui se déroulait hier, était l'occasion de sensibiliser la population à la réalité des personnes handicapées et à la nécessité de mettre en place des infrastructures et services favorisant leur inclusion à la société. À l'occasion de cette journée du 3 décembre, sous le thème des transformations durables pour une société inclusive, l'Office des personnes handicapées du Québec, OPHQ, a souhaité mettre l'accent sur les changements à mettre en œuvre au niveau mondial pour réaliser d'ici 2030 les 17 objectifs inscrits dans le programme de développement durable de l'ONU de 2015. Ce programme vise à mettre fin à toutes les formes de pauvreté, combattre les inégalités et s'attaquer au changement climatique en veillant à ne laisser personne de côté. Même si notre pays a accompli d'importants progrès pour faire avancer les droits des personnes handicapées, le Canada doit continuer de faire preuve de leadership et de faire activement la promotion de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion au pays comme à l'étranger, a déclaré le premier ministre Justin Trudeau dans un communiqué. Au Québec, 9,6 % de la population de 15 ans et plus a une incapacité, ce qui représente environ 616 740 personnes. Le taux d'incapacité augmente considérablement avec l'âge. Considérant le vieillissement de la population, on peut prévoir que le taux d'incapacité est appelé à augmenter au Québec, explique l'OPHQ. Écoutez l'émission spéciale de mon collègue Benoît Rassette aujourd'hui à midi, consacrée à cette Journée internationale des personnes handicapées. C'est sur le site franceinter.fr, les 3 et 4 décembre 1997 au Canada, 122 États s'engageaient à bannir les mines antipersonnelles et à détruire leurs stocks. Après une baisse continue pendant 15 ans, le nombre de victimes est reparti à la hausse depuis 2014 et pourrait atteindre cette année un niveau record. Handicap International organise chaque année des pyramides de chaussures pour mobiliser contre les mines et les bombes à sous-munitions. En 1997, pour la première fois, le droit international bannissait formellement une arme conventionnelle. En ratifiant le traité d'Ottawa, les États s'engageaient à ne pas utiliser, stocker ni produire de mines antipersonnelles. En 15 ans, le nombre personnel tué ou mutilé a quasiment été divisé par 10, de 30 000 par an au début des années 1990, leur nombre est descendu à 3 300 en 2013. C'était sans compter la multiplication des conflits, notamment au Moyen-Orient. Depuis 3 ans, les chiffres sont repartis à la hausse. Près de 8 fois sur 10, les victimes sont des civils et dans 38 % des cas des enfants. Alors que les données pour 2017 doivent être publiées prochainement, l'ONG Handicap International redoute des chiffres records. L'un des problèmes posés par ces armes est qu'elles demeurent une menace sur le long terme. Même si la guerre s'arrête en Syrie, les gens ne pourront pas rentrer chez eux à cause du danger que représentent les restes d'explosifs, souligne Jean-Marc Boivin, directeur du plaidoyer à Handicap International. Hormis la prévention, le seul moyen de réduire le nombre de victimes reste le déminage, un enjeu majeur selon Handicap International. « Et pendant qu'on essaie de joindre Sarah Rouleau de l'INCA, je poursuis ma lecture de nouvelles, cette fois bloc régional, faire emballer ses cadeaux de Noël pour la bonne cause. Cette année encore, il sera possible de confier l'emballage de cadeaux de Noël aux bénévoles de la Société canadienne de la sclérose en plaques à Trois-Rivières. Ce petit geste peut faire une grande différence pour ceux qui vivent avec la maladie. Dans un passé pas si lointain, Sophie Lavallée travaillait dans un casino au service à la clientèle. Lorsque la sclérose en plaques s'est manifestée, quand elle avait 23 ans, sa vie a été bouleversée. « J'étais au travail et j'étais engourdie un peu dans le visage », raconte-t-elle en gardant le sourire. « De fil en aiguille, j'ai consulté, je suis allée à l'urgence, puis ils m'ont dit que j'avais quelque chose de plus grave. » Le cas de la jeune femme de 32 ans n'est pas unique. La sclérose en plaques est la maladie neurologique la plus répandue chez les adultes âgés entre 15 et 40 ans. Ils sont environ 1 000 000 en Mauricie. Après un diagnostic, plusieurs de ces jeunes travailleurs doivent quitter leur travail, ce qui représente une difficulté supplémentaire à surmonter. Imaginez que vous avez 30 ans. Vous avez un diagnostic de sclérose en plaques et vous êtes en invalidité. Tous vos amis travaillent, donc à ce moment-là, les gens peuvent se retrouver très isolés, indique la directrice de la Société canadienne de la sclérose en plaques en Mauricie, Francine Lamarche. C'est déstabilisant. On a de la peine. C'est comme les mêmes stades que le deuil. C'est en partie pour briser l'isolement et pour contribuer à la recherche que la Société canadienne de la sclérose en plaques amasse des fonds. En décembre, des bénévoles emballeront des cadeaux de Noël pour la cause. Pour une 12e année, l'organisme aura son kiosque au centre commercial Les Rivières du 8 au 24 décembre. C'est une nouvelle tirée du site de Radio-Canada. Et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Sarah Rouleau, qu'on a joint. Bonjour, Madame Rouleau.
Bonjour.
Responsable communication, marketing et événements spéciaux de l'INCA Québec. Alors, on parle avec vous d'un événement spécial, le concours pan-canadien de création littéraire Braille de l'Institut national canadien pour les aveugles et aussi la fête de Noël de l'INCA, si on a du temps.
Oui, exactement.
Mais on va en prendre. Alors, Madame Rouleau, très heureuse, je trouve que l'idée de créer un concours de création littéraire en braille est vraiment une excellente idée. D'abord, ça montre l'importance du braille et puis ensuite, ça prouve qu'il y avait un besoin de la part de personnes ayant des limitations visuelles.
Oui, exactement. Donc, nous, comme vous l'avez dit, là, depuis 1990, on organise ce concours-là. Puis c'était vraiment pour encourager les jeunes là, à utiliser le braille, mais aussi à aimer l'écriture, là, même s'ils vivent avec une perte de vision. Puis c'est intéressant parce que c'est un concours pan-canadien, donc ça ajoute un peu là,
de piquant.
Challenge. De piquant,
ouais, ouais.
Mais oui, puis c'est encore une plus grande fierté là, quand les jeunes gagnent. Donc, c'est un concours de création littéraire pour les enfants avec du primaire, du secondaire et début cégep. Bon, parce que dans le reste du Canada, là, c'est de maternelle à 12e année. Donc, nous, ça donne à peu près là, jusqu'à début cégep.
Ouais.
Et le concours finit normalement au printemps, donc en mai, mais c'est maintenant là, qu'on a su les gagnants et que les jeunes reçoivent leur certificat.
Alors, avant de parler des gagnants, en quoi consiste le concours de création littéraire Braille de l'INCA?
Oui, en fait, on invite les enfants à écrire soit un poème ou un récit. Mm-hmm. Et on va bien sûr là, analyser bon leur histoire, leur créativité, mais aussi le braille. Parce que, comme je l'ai dit, le but, là, c'est de les encourager à utiliser le braille parce que le braille, c'est la meilleure façon là, pour les enfants aveugles de développer leurs compétences en orthographe, en grammaire et en ponctuation. On sait que de plus en plus, là, avec les livres audio ou les ordinateurs, avec la synthèse vocale...
Le braille?
Le braille peut être délaissé, ça n'amène pas la même chose.
Mais
parce
non.
que quand on entend quelque chose, on ne voit pas comment c'est écrit. On ne peut pas voir la grammaire, justement, les ponctuations. Fait que pour écrire par soi-même et lire, puis avoir plus tard une plus grande autonomie de pensée ou même être plus autonome pour travailler... le braille est encore très important. Là. Malgré toute l'avancée de la technologie, on veut continuer d'encourager le braille. Donc, c'est ça notre concours. Là.
Oui, d'accord. Et donc, qui composait le jury cette année?
Cette année, c'était Mme Mireille Messier qui était la juge. Donc, on avait seulement une juge. Faut dire, par contre, qu'on avait des correcteurs pour corriger le braille, parce que sur 100 points, il y a la moitié que c'est vraiment le braille. Donc, le braille prend beaucoup d'importance. Donc, des correcteurs qui s'assurent que le braille est bien tapé, qui est bien utilisé. Et ensuite, c'était Mme Mireille Messier qui regardait le plus le côté créativité-histoire. Cette dame-là, elle habite à Toronto, mais elle écrit en français et en anglais, ce qui la positionnait bien là, pour analyser toutes les histoires reçues au Canada. Puis elle écrit pour les jeunes, donc depuis 1999. Elle a aussi là, été scénariste, elle a écrit une vingtaine de romans.
Elle a une connaissance et une expérience.
Oui,
oui. Ouais. Et qui sont les jeunes gagnants du concours 2017?
Bien, en fait, là, je ne peux pas toutes vous dire gagnants, mais
il y en a beaucoup?
On a 24 gagnants à travers le Canada. Faut dire que ça se divise en 4 groupes. Donc, de maternelle à deuxième année, troisième à cinquième année, sixième à secondaire 2, secondaire 3 à début cégep. Mm-hmm. Donc, toutes ces catégories-là ont des prix. Et ça se divise aussi là, en poésie. Donc, il y a des prix pour ceux qui ont fait des poèmes et des prix pour ceux qui ont écrit plus des récits ou des essais. Et au Québec, cette année, on a eu 6 gagnants. Donc, 6 gagnants sur 24. On est très fiers.
Bravo!
on voulait là, vraiment que les gens participent. Puis finalement, ben, ils ont été récompensés.
Et qui sont ces 6 gagnants?
Oui, on a James Daniel Léonard, qui a gagné un premier prix pour son histoire. Aileen Asimaz, premier prix pour son poème. Ensuite, Marie-Pierre Brousseau. Noémie Turcotte-York, Ethel Wedakar, Maya Chamas, Evan Couturier-Thompson, Cédric Desrosiers et Iliane Doucet. En fait, Evan, Cédric et Iliane n'ont pas gagné de prix, mais ont eu une mention honorable.
Bon,
donc,
alors,
on a 6 gagnants plus 3 mentions honorables.
Oui, c'est digne de mention. Et qu'est-ce que remportent tous les gagnants?
Oui, en fait, ils gagnent entre 25 et 150 $. Donc, c'est un beau petit cadeau. Et c'est selon leur âge et la position. Donc, premier prix, il va gagner plus que troisième prix. Et plus ils sont vieux, plus le montant est important. Comme ça, pour eux, ça représente plus aussi. Là, un petit bout de chou, il n'y a pas besoin de 150 $. Donc, c'est pour ça. Donc, on a entre 25 et 150 $ par gagnant. Et ils reçoivent un certificat en braille, qui est écrit, imprimé, mais aussi en braille, qu'ils puissent le lire.
Ils vont recevoir les cadeaux, les prix, quand?
Bien, c'est ça. En fait, ceux qui sont dans la grande région de Montréal, donc c'est en lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure, on va les recevoir à notre 4 à 7 de Noël et on va leur remettre là, devant tous les invités.
Ah, bien, c'est merveilleux. Pendant la fête, donc, le 4 à 7 qui a lieu le 15 décembre.
Le 14, oui.
Ah, oh, le 14,
oui,
d'accord.
Le 14
j'ai ici un 5 à 7 le 15, alors c'est plutôt un 4 à 7
le
14. D'accord. Et puis, si les auditeurs de Canal M veulent participer à la fête, est-ce qu'ils sont les bienvenus?
Ben oui, c'est vraiment ouvert à tous. Ça se passe dans nos futurs locaux. Donc, INCR va déménager. On n'est pas encore aménagé, mais on voulait vous faire découvrir la place où on sera situé pour mieux accueillir tout le monde.
Alors, votre adresse en terminant,
oui,
Madame Rouleau?
Ça va être au 2065 rue Parthenay. Et c'est la porte de gauche, mais on va mettre des ballons, on va être bien visible. C'est gratuit, il va y avoir des petites bouchées, des prix, et vous êtes tous invités.
Bon, mais c'est bien gentil. 14 décembre... C'est un 4 à 7 pour découvrir vos nouveaux locaux et rencontrer aussi les gagnants à qui on dit bravo.
Oui,
merci,
vraiment.
Merci Sarah Rouleau pour cette
merci.
Entrevue.
On vous attend au 2065 Parthenay le 14.
Merci et puis je vous souhaite une belle fête de Noël.
Merci beaucoup.
Au revoir. Nana le chien à la rescousse des enfants petits et grands, c'est sur le journal saintfrançois.ca, que ce soit pour accompagner un enfant pour une dénonciation au poste de police, pour un témoignage au palais de justice ou lors d'un placement dans une famille d'accueil. Nana est là pour les enfants. Nana, un labernois de 17 mois, est le premier chien à travailler dans un centre jeunesse au Québec. En tant que chien de soutien émotionnel, son travail consiste à accompagner les enfants dans leurs moments les plus difficiles. Mis à part les agentes de relations humaines au Centre jeunesse de la Montérégie, Daniel Proux et Caroline Légaré, qui sont ses deux maîtres, seuls les enfants peuvent cajoler Nana. La consigne est qu'aucun adulte n'a le droit de la toucher, explique Mme Proux. Elle est là seulement pour les enfants. Alors, Nana commence à comprendre que lorsqu'il y a un enfant, elle se fait flatter. Ça donne une importance à l'enfant puisqu'il enregistre très vite que les adultes n'ont pas le droit de la toucher et ils ne se gênent pas pour le dire. Les enfants et les adolescents établissent rapidement un contact avec Nana et ce même lors de situations extrêmement difficiles. Avec son côté taquin, le Labernois réussit à faire descendre la tension. Elle est extrêmement démonstrative, alors ça permet de détendre l'atmosphère, précise-t-elle. Nana fait rire les enfants, diminue leur stress et les détend. Elle commence à le sentir et lorsque l'enfant commence à être un peu plus émotif, je l'ai vu se lever et aller vers l'enfant. Le centre jeunesse de la Montérégie est le premier au Québec à accueillir un chien de soutien émotionnel. Un projet mené de front par Daniel Proux et Caroline Légaré, qui se partagent les interventions, mais aussi la garde du chien, les soirs et les fins de semaine. Pour obtenir leur titre de maître chien de la jeune Nana, les deux femmes ont pris part à une formation d'une semaine à la Fondation Mira. Et j'ai maintenant le plaisir de m'entretenir avec Lisanne Gagné, chef de la programmation d'Ami Télé en ce 4 décembre. Je pense que c'est le temps de parler de la programmation des fêtes d'Ami Télé. Bonjour, Madame Gagné.
Bonjour, Hélène.
Vous allez bien?
Oui, vous?
Oui, oui. Est-ce que votre sapin est fait?
Oui, en fait, j'ai fait ce week-end avec mes enfants. Donc,
oui, puis dans les locaux d'Ami Télé aussi?
Le sapin n'est pas encore tout à fait fait.
Ça s'en vient.
Mais on a déjà programmé une belle programmation des fêtes.
Oui, alors qu'est-ce que vous nous réservez pour ce beau temps des fêtes?
Ben, déjà, c'est un peu commencé. On planifie nos films des fêtes, comme on va diffuser ce vendredi le classique Nez Rouge, un film québécois avec Patrick Huard et...
Ah oui! L'actrice
Barbara Pellier.
C'est cela, oui.
Oui, oui, exactement.
On ne voit plus beaucoup.
Non, mais elle est très bonne dans ce film.
Oui.
Il va aussi y avoir deux films, Des contes pour tous, qui a toujours un bon succès, La grenouille et la baleine, puis Bac et bottine.
Ah oui, avec la jeune Maë Paiement qui est craquante dans ce film-là.
Oui, mais c'est là-dedans qu'on l'a découvert.
Oui.
Et sinon, côté production originale, ben, vous connaissez sûrement Pas de panique, on cuisine.
Non.
C'est une émission de cuisine animée par Véronique qui a un problème de vision avec Bob le chef.
Ah oui, et d'accord, j'en ai entendu parler, oui.
Oui, et dans la semaine du 16 décembre, donc mardi le 19 décembre à 20h30, il va y avoir un épisode spécial pour le temps des fêtes où ils vont cuisiner des pains farcis et une bûche de Noël.
Oui.
Donc, puis la semaine suivante, ça va être un épisode axé sur le déjeuner. Donc, mardi le 26 décembre, ben, vous pourrez, pendant les vacances, vous préparer un beau petit déjeuner au lit.
Certainement, vous nous donnez le goût. Et vous avez déjà parlé de cinéma, mais il y a aussi d'autres films, des traditionnels films de fin d'année là, que vous allez nous présenter.
Ben, il va y avoir les Boys, évidemment. C'est un classique, mais ça, c'est plus à partir du 5 janvier où on va diffuser les trois films une semaine après l'autre. Donc, c'est un classique, ça aussi.
Ben, certainement.
Oui, et il y aura aussi, évidemment, le 31 au soir, le Bye Bye.
Ah oui,
17.
Ça, c'est la cerise sur le gâteau, là.
En direct, en même temps que Radio-Canada, sauf que nous, on a la primeur avec la vidéo description.
OK, d'accord. Donc, et ça, ben, ça va se dérouler, évidemment, le 31 décembre.
Le 31 décembre à 23h, et notre coordonnatrice à la vidéodescription va travailler d'arrache-pied la journée même pour qu'on vous offre la vidéodescription à temps, hein, évidemment.
Oui, j'espère bien, mais c'est tout un défi, hein?
Oui, c'est un gros défi qu'on relève à chaque année. Donc, ça, on est vraiment contents parce que Nos téléspectateurs sont ravis de ça aussi, de pouvoir enfin regarder le bye-bye en compagnie de leurs proches, leur famille et
oui.
Pouvoir bien comprendre tout ce qui se passe.
Bien, participer comme tout le monde, là, puis rire avec tout le monde aussi.
Exactement.
Oui.
Exactement.
Alors,
c'est un événement familial, c'est l'événement de l'année où tout le monde se réunit devant la télé.
Absolument, et c'est la deuxième année où le Bye Bye est écrit, réalisé par Simon-Olivier Fecteau.
Oui, effectivement.
Oui, avec une belle distribution.
Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, en fait, c'est les mêmes que l'année dernière. Il va y avoir
Marc Labrèche.
Dorval, Marc Labrèche, Véronique Claveau, Pierre Brassard et Patrice Lécuyer.
C'est à ne pas manquer.
Exactement.
Oui. Oui. Alors, la programmation des fêtes d'Amis Télé est lancée.
Oui, tout à fait.
Et ça se poursuit jusqu'à?
Oh, ben, on poursuit jusqu'à dans la semaine du 1er janvier, comme je vous ai dit. Il va avoir on va présenter les Boys vendredi le 5 janvier. Donc, tout le mois de décembre et un petit peu dépassé janvier, on diffuse nos classiques et nos nouveautés axées sur le temps des fêtes.
Parfait. Et on finit ça avec les Boys.
Exactement.
Du comfort food cinématographique, si je peux dire.
Ben oui, on aime ça.
Ah oui, ça nous détend. Alors, Lisanne Gagné, chef de la programmation d'Amis Télé, merci pour cette entrevue, puis je vous souhaite un agréable temps des fêtes. On sera à l'écoute d'Amis Télé.
Ben, merci.
C'est déjà commencé de toute façon.
Oui, exactement.
Ah oui, vous avez un site Internet aussi, si on veut avoir toutes les informations.
Oui, vous avez seulement à consulter notre guide horaire.
amitélé.ca. Merci.
Exactement. Merci, au revoir.
Sur le site de Radio-Canada.ca, des services pour les enfants vivant avec le trouble du spectre de l'autisme, TSA, et autres troubles du développement seront offerts en janvier dans la grande région de Campbellton. Ce centre est mis sur pied par Mélanie Parent et Marilyn Thibault, deux mères d'enfants vivant avec ce trouble du développement. Dès janvier, le Centre Jeunesse Interaction accueillera une douzaine de jeunes âgés de 5 à 12 ans. Ces jeunes pourront prendre part aux activités du centre après les heures de classe ainsi que les samedis matins. Mélanie Parent précise qu'elles travailleront notamment les habiletés sociales des enfants pour qu'ils apprennent à jouer ensemble. On va offrir un service pour les aider à se développer du côté de la motricité fine, de la motricité globale et pour qu'ils aient plus d'attention, explique Mme Parent. La fille de Tina Parent profitera des services du nouveau centre. Ça va me donner la chance de prendre une pause parce qu'être maman d'une fille autiste sévère, ça demande beaucoup. Les partenaires prévoient déjà un agrandissement du centre au printemps pour accommoder une clientèle provenant d'autres groupes d'âge. Ce texte est rédigé d'après un reportage de Serge Bouchard. Des militants pour l'accessibilité tentent de convaincre les conseillers municipaux de Toronto d'adopter un règlement qui exigerait que tous les trottoirs de la ville fassent au moins 2,1 mètres de largeur. C'est une nouvelle tirée du site radiocanada.ca. Selon la loi ontarienne sur l'accessibilité pour les personnes handicapées, tous les trottoirs de la province doivent faire au moins 1,5 mètres de largeur. Pour de nombreuses artères du centre-ville de Toronto, c'est bien trop étroit, affirme Adam Cohoun, qui éprouve souvent des difficultés à s'y déplacer avec son triporteur électrique. L'homme handicapé dit qu'un trottoir achalandé comportant des obstacles comme des poteaux, des rampes ou des affiches de commerce lui rend la vie difficile. Sans compter les piétons zombies qui ont les yeux rivés sur leur téléphone en marchant, ajoute-t-il. 2,1 mètres, c'est un minimum. On a besoin pour assurer une pleine accessibilité quelque chose autour de 2,5 à 3,8 mètres selon s'il y a une terrasse, un café, des marches. En première partie du concert au Bali, le chef du gamelan Jiri Kedatun, Pierre Paré-Blais, présentera les différents instruments de leur orchestre balinais unique au Canada offert par l'Indonésie le jeudi 7 décembre à 20h à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau. Il expliquera l'influence de cette musique qui a fasciné plusieurs compositeurs occidentaux. Le programme musical débutera à 20h30. La salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau est située au 300 boulevard de Maisonneuve-Est à Montréal. Elle est accessible à tous avec un ascenseur et de bonnes places pour les personnes en fauteuil roulant. Merci à mes invités. Sarah Rouleau de l'INCA Québec et Lisanne Gagné, chef de la programmation d'Ami Télé. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson et Maurice Bolduc. Ici Hélène Denis, merci à vous d'avoir été là. À très bientôt.